Parents Live, la vie de famille en direct.
Vous avez envie de partager votre expérience de parents, grands-parents, beaux-parents, enfants ou ados sur un sujet qui vous tient à cœur? Racontez-vous.
Sur Parents Live, on parle de la vie de famille, la vraie, celle qui tâche, qui fait du bruit, qui empêche de dormir ou qui claque les portes.
Rejoignez le direct Parents Live tous les deuxièmes mercredis du mois sur News FM.
Retrouvez les podcasts et l'ensemble des vidéos créées dans le cadre du projet Parents Live sur parentslive.fr. Yes, c'est 13h tout pile, bienvenue si vous débarquez sur les ondes du 101.2, une fois par mois, c'est-à-dire même mieux, une fois tous les deux mois cette année, nous avons l'émission Parents Live en compagnie de Flo qui m'accompagne comme d'habitude pour cette émission coproduite entre Parents Live, La Petite Poussée et News FM. Salut Flo, est-ce que tu m'entends?
Ouais, je t'entends bien, c'est bon.
Alors moi je t'entends pas, pardon.
Eh ben oui, c'est mieux avec le micro quand
c'est
même.
Mieux. Tu vas bien, bonne fête à toi, tout ça, meilleurs vœux.
Ouais, meilleurs vœux, les fêtes elles sont passées, ouais, heureusement voilà. D'ailleurs.
Moi j'adore la fête, c'est pour ça, j'ai toujours la fête en tête. Désolé. Yes, aujourd'hui émission, je ne sais plus combien, peut-être 17e 19e, voilà, Parents Live. Toujours cette émission consacrée à la parentalité sous toutes ses formes et plein de thématiques différentes. Et aujourd'hui on a donc une thématique encore différente, nouvelle, avec des nouveaux invités.
C'est ça. Ouais, on va se dire qu'on va un petit peu passer sur les vœux de bonne année et puis qu'on va se souhaiter un peu ce qu'on se souhaite tous les jours, hein, un monde, on va dire, ouvert, curieux, réaliste, optimiste, rêveur, mais les pieds sur terre. Et puis on s'y emploie à travers le projet de La Petite Poussée qui porte cet ovni un peu barré qui part en live. Merci à tous ceux qui donneront de la voix cette année sur les ondes et en premier lieu à nos invités d'aujourd'hui.
Et ouais, nos invités d'aujourd'hui, donc la thématique c'est l'éducation affective et sexuelle et la prévention auprès de la jeunesse. Pour parler d'éducation affective et sexuelle, nous accueillons Laure, professeure des écoles et directrice qui mène régulièrement des ateliers sur le sujet avec ses élèves en maternelle. Elle est mère de deux pré-ados, bonjour.
Trois du coup.
Bonjour, ouais. Trois pré-ados, c'est ça.
Trois, c'est mal noté sur mes fiches. Ça c'est stagiaire, c'est incroyable. Bonjour Laure, nous avons aussi Johanna, autrice, compositrice, interprète, qui aborde sans aucun détour ces questions dans ses spectacles, à destination des adultes mais aussi des enfants. Elle nous parlera de son dernier spectacle, Il y a quelqu'un, qui aborde la question de l'enfermement sur soi et du secret suite à un événement traumatique. Elle est la mère de trois enfants de 12, 8 et 5 ans. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous avons Raphaël, kinésithérapeute, accompagnatrice thérapeutique, conseillère en santé, formée à la question des violences envers les femmes, mère d'un petit garçon de presque 7 ans et belle-mère d'un garçon de 7 ans et demi. Bonjour.
Bonjour.
Et puis enfin, on entendra, Flo, la voix de Lionel Beauchaud, qui est psychologue clinicien, expert auprès de la Cour d'appel de Grenoble et formateur, que tu as pu interviewer avant l'émission.
Voilà. Cette thématique d'émission, elle m'a été proposée par Raphaël. On s'est rencontrés lors d'une émission radio en octobre 2020 sur l'accompagnement des enfants malades. Et quand on se préparait justement cette thématique, on disait qu'au-delà de l'aspect un peu technique de la chose, à savoir comment on fait les bébés, qu'est-ce que c'est bandé, pourquoi on a ces règles, etc., on avait surtout envie de situer ces propos dans un champ un peu plus large, qui est celui de l'apprentissage d'un rapport à soi et aux autres respectueux et égalitaire. Ça, ce sera la première partie de l'émission. Puis après, on va se coltiner un sujet beaucoup moins fun, voire carrément tabou, mais qui est aujourd'hui un réel enjeu de santé publique, à savoir celui des violences sexuelles faites aux enfants. Trigger warning, assurez-vous quand même d'être dans de bonnes dispositions pour écouter cette deuxième partie. Voilà. Pour introduire cette question de l'éducation sexuelle et affective, pourquoi et comment on aborde ces sujets-là avec ses enfants, on va écouter Lionel Beauchaud nous parler de prévention.
Si on parlait aussi de la sexualité qui fait du bien, comment à la fois il est possible et on doit prévenir les enfants d'un certain nombre de risques, mais en même temps leur faire part aussi de ce qui est beau dans la vie. C'est une histoire d'équilibre. Parlons aussi que ce corps, voilà, pour soi, c'est un corps de découverte, c'est aussi un corps de plaisir, c'est un corps qui nous permet de faire plein de choses. Voilà, c'est-à-dire tenir ces deux discours. Sinon, on est dans une prévention qui fait peur. Et si dans la prévention, on crée de la peur, je pense qu'on rate ce que l'on vise. Et on est même contre-productif.
Donc moi, ça me rappelait beaucoup une séquence de la série Sex Education, qui est une série sur Netflix qui met en scène les premières amours et la découverte de la sexualité de lycéens britanniques. Donc il y a une nouvelle directrice qui arrive et elle veut absolument reprendre la main sur la vie débridée de ses élèves et elle prône l'abstinence. Donc elle diffuse des vidéos atroces d'accouchement pendant une séance d'éducation sexuelle. Et du coup, pour dissuader les jeunes filles d'avoir des rapports, et puis Maeve, l'héroïne, elle s'oppose à ça, elle dit non mais sortez. Donc informer sur les IST, les infections sexuellement transmissibles, les MST, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, la contraception et les violences, c'est indispensable. Mais dans le même temps, comme le disait M. Beauchot, accompagner les enfants dans la découverte et la connaissance de son corps, c'est tout aussi nécessaire. Donc avec quelle posture et puis dans quel objectif on dispense cette éducation? Et puis comment et avec quel support on peut le faire en tant que professionnel, en tant qu'artiste, en tant que parent? C'est ce à quoi on va tenter de répondre durant cette première demi-heure. Puis moi, ça me paraît aussi, c'est important aussi de se dire que ce n'est pas toujours facile en tant que parent, selon les vécus, l'éducation, la culture, les personnalités, d'aborder ces questions-là avec les enfants. Mais pour autant, elles sont primordiales. Et à un moment donné, en tant que parent, il faut aussi pouvoir s'assurer que l'enfant a un espace ou des personnes avec qui en parler, même si ce n'est pas forcément nous en tant que parents. Voilà. Ça me faisait penser du coup à un interview que j'ai fait avec Erika Leclerc-Marceau et Marine Viennet, qui sont deux artistes qui ont fait un spectacle qui s'appelle « La beauté des sexes », dans lequel, entre autres, elles mettent en scène les cours de SVT qu'elles n'ont jamais eu et qu'elles auraient bien aimé avoir, notamment pour aborder leur puberté. Donc ma première question, et ce sera une petite question surprise, selon vous, ce serait quoi le sujet que vous n'avez pas abordé avec les adultes qui vous entouraient quand vous étiez plus jeune et qui vous aurait été bien utile, justement, en termes de vie affective et sexuelle? Donc je ne sais pas qui c'est qui peut commencer, entre Raphaël, Laure et Johanna, si la question vous parle.
Le sujet qu'on aurait aimé aborder.
Dont on ne vous a pas parlé, et finalement, vous dites, franchement, peut-être on m'aurait prévenu, ça aurait été pas mal, quoi.
Peut-être que les différentes façons d'aimer, qu'est-ce que c'est aimer un copain, un frère, un parent, pourquoi on aime différemment et qu'est-ce que ça fait dans le corps, enfin, qu'est-ce que ça procure, toutes les notions autour du plaisir d'aimer et du plaisir d'être avec son corps, peut-être.
Non, pas trop de réactions après.
Si, moi comme ça, d'un certain, ça aurait été plus tout ce qui est MST, où effectivement, bah, moi je suis dans 85 et... Mes parents étaient éduques, donc on était quand même dans un truc où il y avait pardon, j'ai des bracelets qui font du bruit. Il y avait des discussions, hein, mais du coup, c'est vrai que j'ai chopé le papillomavirus hyper jeune, quasiment au premier rapport. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup, en fait. Et voilà. Mais je trouve que ça avance quand même dans le bon sens là-dessus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment que le sida et le truc de tomber enceinte et le reste... Alors qu'il y a une multitude de trucs plus chiants les uns que les autres, dont ce papillomavirus qui, quand même, a eu un impact, et encore aujourd'hui. Voilà.
Bah, de mon côté, c'est ce qu'on a abordé, puis c'est aussi quand et comment on l'a fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était quand même hyper cloisonné. On avait effectivement le cours de SVT une fois au collège, et puis après, c'était terminé. Donc soit on avait la chance de pouvoir aborder ces questions-là en famille ou avec les amis, soit sinon, voilà, il fallait pas louper le coche, quoi. Alors peut-être qu'on aurait gagné à faire de la prévention, justement, ou de l'information un peu plus tôt, et puis dans différents lieux, pas que au collège, et pas que avec l'infirmière de santé scolaire.
Moi ? Non.
Mais non. Non, c'est à toi.
Je sais pas, tu me regardes genre, bah, moi, ma réaction ? Non, non, pas du tout.
Non, mais tu peux nous en parler, Greg. Okay.
Non, non, ça va, écoute, je passe mon
tour. Parce que t'es quand même le seul représentant de la gente masculine autour de ce plateau, donc
il nous faudrait une réaction.
Non, je rejoins deux réactions, celle de Raphaël et celle de Johanna, donc à savoir les virus, la multitude de virus ou d'infections qu'on peut choper. Et puis voilà, c'est quoi aimer, pas aimer, pourquoi, comment. Se foutre dedans dans les sentiments, repartir, croire qu'on aime, alors qu'on n'aime pas, ou j'en sais rien, tout ça. En gros, c'était ça, voilà, pour répondre à ta question. Je peux enchaîner donc, en tant que professionnel, Raphaël, vous êtes amené, tu, c'est pas mal. Tu es amené à soigner des enfants, notamment qui ont subi de graves brûlures, et comment tu abordes avec eux leur corps, leurs lésions, et les gestes de soins que tu vas effectuer?
Alors, quand je reçois mes petits patients, ils sortent effectivement d'un parcours médical qui est assez lourd, où ils ont beaucoup, beaucoup encaissé. Même quand les soignants sont très bienveillants, il y a toujours des choses, on passe parfois à côté. Donc, il y a un grand temps de parole avec eux, où je leur demande de me raconter un petit peu comment ils vivent leur corps et qu'est-ce que ça leur fait, comment ils se voient, comment ils se ressentent. Qu'est-ce qui leur fait du bien, qu'est-ce qui leur fait mal, pour que vraiment j'essaie de sentir un peu où ils en sont avec tout ça. Et après, je fais toujours attention, même avec les adultes, à comment je pose ma main sur un corps, en partant du principe que je ne sais pas son histoire, Donc je regarde beaucoup parce que on voit dans la façon dont un patient va respirer, le regard, la gestuelle, un petit peu le rapport qu'il a avec son corps. Donc prévention plus, toujours. C'est pas anodin de poser une main. Donc l'intention, quand elle est juste, ça se passe quasi tout le temps très bien. Mais voilà, je pose des questions beaucoup et après je fais attention et je préviens. Je préviens que je vais toucher, etc. Parfois, je mets ma main sur leur main, par exemple, au début.
D'accord, pour un premier contact et pour sentir un peu les réactions.
Voilà. Exactement, surtout des corps qui ont eu très mal, la douleur, ça laisse beaucoup de traces et ça a vraiment ça laisse une mémoire chez le petit patient. Et du coup, on y va cool, on a le temps, pas de pression.
Voilà. Très bien. Laure, en tant qu'enseignante, quelle posture toi tu adoptes avec les plus jeunes et quels sont les messages importants à faire passer d'après toi ?
Par rapport à ça, toucher le corps. Alors moi, quand j'ai fait ma formation il y a maintenant plusieurs années de ça, on avait une consigne qui était très claire, on ne touchait pas les enfants. Voilà, aujourd'hui, je trouve que ça se détend un peu dans le bon sens, c'est-à-dire que ce rapport physique, de toute façon, il existe. Donc on l'aborde et on voit comment est-ce qu'on peut être présent aussi physiquement pour un enfant, notamment maternel, qui a besoin d'un câlin, qui a besoin d'être cajolé, qui a besoin d'être réconforté, qui a besoin qu'on le prenne dans ses bras. Mais on est super vigilante au consentement des enfants. Donc, par exemple, si on est, je prends l'exemple du dortoir à la sieste pour les plus petits, il y en a qui ont besoin qu'on soit présent physiquement autour d'eux et qu'on les aide à s'endormir, on leur demande « Est-ce que tu as envie que je te fasse des papouillous dans la tête ? Est-ce que tu as envie que je te caresse la main ?» Voilà. Donc, on n'est plus dans l'interdiction de ce rapport physique qui, de toute façon, existe, mais on est quand même, comme tu disais, Raphaël, dans la parole et puis dans la demande de ce consentement.
Beaucoup de précautions à prendre, du coup, par la discussion en amont, tout ça. Mm-hmm. Ouais.
Oui, puis ce sont des questions qu'on aborde à l'école aussi. Alors, moi, je suis aussi dans cette émission parce que j'avais échangé sur ce qui s'était passé dans notre école depuis l'année dernière et qu'on reconduit cette année, en fait. On fait une semaine qui s'appelle « Respecte mon corps », durant laquelle on a plusieurs ateliers, plusieurs interventions, en fait, qui sont prévues. Et on apprend à découvrir comment respecter le corps des autres et comment respecter son propre corps et qu'est-ce que le consentement à des enfants qui sont très jeunes, en maternelle, de 3 à 5 ans. Et justement, on apprend à poser les mots. Voilà. Donc, ça intervient aussi dans ce cadre-là.
D'accord.
Très bien.
Tu pourras plus précisément en parler tout à l'heure sur la question de quel support et quels outils on peut utiliser pour évoquer ces questions-là avec les enfants.
Johanna, en tant que chanteuse, les thématiques de tes chansons, tout à la fois graves, à la fois lumineuses, pourquoi s'adresser de cette façon aux enfants ?
Oui, j'ai toujours vu la musique comme un truc un peu revendicatif, en fait. Enfin, je sais pas, je ne peux pas répondre à cette question, en fait.
Okay.
Je sais pas, ça fait partie de mon ADN, je crois. Et puis, il y avait ce truc de se dire, en fait, si les gens n'ont pas envie qu'on parle de ce sujet-là, du coup, ça me motive encore plus pour en parler, quoi.
Ouais. Quand tu sens que c'est un peu, tu dis, il faut le mettre sur la table quand même.
Ouais, c'était quoi la question de base ?
C'était la question, pourquoi s'adresser comme ça aux enfants ? Ou est-ce que tu
alors, c'est nouveau,
que
hein.
C'est nouveau, chez toi ?
Ouais, il y a eu un premier spectacle pour les enfants, ce qui était sur les émotions.
Ouais.
Donc, voilà. Et là, c'est la thématique des enfermements. C'est c'est tout nouveau. Le spectacle a eu sa première au mois de novembre. Et c'est parti du confinement, évidemment. Mais parce que je trouvais que c'était bien qu'il y a eu MeToo, machin, tout ça. La parole s'est libérée chez les adultes. Je trouve ça super. Mais j'aimerais bien que la parole se libère chez les enfants aussi, en fait. Voilà, il y avait ce truc-là. Et c'est vrai qu'un objet artistique, quel qu'il soit, un tableau, n'importe quoi,
une pièce,
c'est un prétexte pour parler, en fait. C'est un support de discussion.
Ouais, c'est pareil, hein, sur la question des supports et qu'est-ce qu'on peut utiliser avec les enfants, on va pouvoir développer comment est née l'idée de ce spectacle et puis qu'est-ce qu'ils proposent.
C'est deux fois de suite les mêmes questions, hein, pardon.
Non. sur la question de la posture des adultes, en fait, Lionel Beauchaud, il rappelait dans notre entretien, l'important c'est le devoir pour les parents de poser un cadre et des limites claires aux enfants pour qu'ils puissent ensuite un peu déterminer ce qui est interdit et ce qui est mauvais en fait pour lui. Et il disait que ces interdits, même s'ils sont transgressés, même si par exemple un autre enfant accède à un site pornographique, ça sert quand même à l'enfant d'un rappel à la loi. Et il sera d'autant plus facile en fait d'en reparler si le sujet a déjà été évoqué en amont. Et s'il a conscience que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir ou qu'on n'aurait pas dû lui faire, etc. Donc l'importance, de parler de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Voilà. Pour passer à la question des supports et des outils qu'on peut utiliser en tant que parent et en tant que professionnel pour aborder ces questions-là avec ses enfants, parce que ce n'est pas forcément simple de le faire de façon frontale, de s'asseoir tous les deux à table ou lors d'un repas ou quoi que ce soit, même si ça peut arriver. Laure, donc vous avez mené des animations avec le planning familial de Grenoble au sein de votre école. Quels outils vous avez utilisés et comment ça se passait concrètement avec les enfants ?
Alors, nous, on a organisé l'année dernière donc une semaine qui s'appelait « Respecte ton corps ». Et pendant toute cette semaine, on a organisé effectivement différents ateliers. On l'a fait parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin. Et puis, un besoin et même un vide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de partenaires autour de l'enfant qui se renvoient un peu la balle. C'est-à-dire que c'est aux parents d'en parler, oui mais non, l'école, les parents pensent que c'est à l'école d'en parler, l'école se dit c'est au corps médical d'en parler. on a eu ce besoin d'en parler parce que chez les enfants c'est un sujet sensible et puis surtout c'est un sujet quotidien. Quand on voit le manque d'intimité qu'il y a dans les écoles dû à des structures finalement au bâti, les écoles de Grenoble, il n'y a pas de toilette individuelle pour les enfants en maternelle, donc tout le monde fait pipi caca devant tout le monde. Alors il y a des enfants pour qui ça pose pas de problème. Puis il y en a, quand ils grandissent un peu, l'intimité, ça devient important et il n'y a pas de moyen d'avoir cette intimité-là. Et puis la grande section, c'est un petit peu l'adolescence de la maternelle. Donc quand on arrive au mois de juin, on sent qu'il y a des questions qui doivent être abordées. Donc on a décidé de se lancer avec une équipe motivée. Au cours de cette semaine, on a fait différentes choses. On a d'abord mis en place des débats philo. Autour pas mal de la question des genres, qu'est-ce qu'être un garçon, qu'est-ce qu'être une fille, voilà, avec notre bol sonore, notre petite bougie, nos temps de parole, des images support, etc. On a mis en place aussi des spectacles de marionnettes avec des petites scénettes. Alors les marionnettes sont des petits animaux qui jouent des petites scènes très, très, très courtes en fait, et après on demande aux enfants de se positionner, donc il y avait plusieurs scénarios. Celui qui a le plus fonctionné pour nous, entre guillemets, c'était l'histoire d'un petit ours qui fêtait son anniversaire. Et sa maman, il reçoit plein de cadeaux de la part de ses amis. Et à un moment donné, sa maman lui dit, écoute, petit ours, il faut que tu dises merci, fais un bisou. Et puis, petit ours, il veut pas faire de bisou à la mamie qui lui a offert un cadeau. Il veut juste dire merci comme ça. Et puis, la maman se fâche en disant que... C'est pas normal, il faut absolument qu'il fasse un bisou pour dire merci. Et bon, il y a conflit entre le petit ours et sa maman. Et là, on s'arrête là et on demande aux enfants ce qu'ils en pensent. Bon, ils sont tous d'accord avec la maman, hein. Il faut absolument qu'il fasse un bisou pour dire merci. Donc voilà, on fait émerger aussi un petit peu des idées préconçues, des stéréotypes. On en parle avec les enfants, on réfléchit à ça. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire un bisou pour dire merci ? Parce que d'ailleurs, on est obligé de faire un bisou. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de se dire bonjour, de se dire merci, etc. Donc ça a très bien marché, les marionnettes. On a eu aussi donc l'intervention du planning familial qui est venu, qui a travaillé autour de chansons, autour d'albums, et puis qui a ouvert des échanges avec les enfants, des échanges de paroles, voilà. Pendant toute la semaine, on s'est construit une bibliographie et on s'est appuyé sur ces livres pour ouvrir des temps d'échange avec les enfants. Et puis enfin, on avait travaillé sur une production commune collective. On avait repris des silhouettes non genrées en fait. On avait demandé aux enfants de décorer comme ils voulaient et de laisser les mots de la semaine, c'est-à-dire ce qui les avait plus impactés, ce qui les avait plus marqués. Il y avait beaucoup de choses qui étaient ressorties au niveau de leurs droits, de qui pouvait les toucher, qui ne pouvait pas, dans quel cadre c'était normal d'être touché et où et par qui. Et puis ces silhouettes, on les avait accrochées un week-end devant l'école, façon grande lessive, là, les décorations des enfants, pour qu'il y ait un lien qui se fasse avec les parents. Donc les parents étaient venus, avaient regardé les silhouettes, avaient lu les mots d'enfants, on avait relayé ça sur le padlet de l'école. Et c'est vrai que du coup, c'était l'ouverture de la discussion avec les familles, avec les adultes aussi. Et finalement, on s'était un peu dit à l'époque, c'est la première fois qu'on le fait, on avance un petit peu sur un terrain glissant, et on a eu des super retours des familles. Voilà. Et les enfants ont énormément apprécié, et encore aujourd'hui, un an après, pour ceux qui sont toujours à la maternelle, on voit qu'il y a des réflexes qui sont acquis, qui sont mis en place, et on se dit que si on le fait chaque année, donc c'est le cas, on va le refaire cette année avec le planning familial et avec la santé scolaire de la ville de Grenoble qui va venir intervenir sur la question des genres. On se dit que voilà, c'est les petites pierres à l'édifice, et que si l'enfant débarque en CP et que s'il n'a jamais entendu parler de ses problématiques au sein de sa famille, s'il l'a fait tous les ans en maternelle, il sera déjà un peu outillé. S'il lui arrive quelque chose, on espère qu'il aura déjà un peu des ressources pour se défendre.
Donc ouais, si ça vous parle, faut pas hésiter à se rapprocher du planning familial pour mettre en place ce type d'animation, c'est leur travail. On vous mettra les coordonnées dans le descriptif de l'épisode. Et voilà.
Yes, et on peut. Ben écoute, je vais enchaîner, je vais continuer avec Johanna. Tu nous as parlé de comment est né ton spectacle sur l'enfermement, puis mettre les problèmes auxquels les adultes en parlent, on en parle entre adultes, et ce serait bien que les enfants en parlent aussi. C'est un peu ce qui a motivé ta création de ce spectacle, ou ce qui motive en tout cas le fait de parler. Est-ce que t'as des retours? T'as déjà joué le spectacle? Est-ce que t'as des retours de parents ou de gens qui te font des retours?
Oui, on a eu des retours.
Comment c'est accueilli, c'est...
Alors, nous, on a voulu exprès que ce soit pas un spectacle frontalement sur l'inceste. C'est-à-dire que, schématiquement, le lapin méchant, une espèce de lapin garou, comme ça, qui vient faire chier la petite fille, ça peut être n'importe... Enfin, ça peut être d'autres choses, en fait. C'est-à-dire que... Un enfant peut... Ouais. Le lapin, ça peut être la maladie, ça peut être...
C'est une symbolique, quoi. Enfin,
c'est une symbolique. Ouais. C'est vraiment... On n'a pas été dans un truc ultra frontal. Enfin, c'est pas... ça peut laisser... ça peut être ouvert à d'autres problématiques. Ça peut être le harcèlement. Le lapin, ouais. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être les violences familiales. C'est pas forcément... moi, j'y ai mis mon passé, mais... Et moi, je sais ce que j'ai mis dedans. Mmh. Mais ça reste ouvert, donc... qu'on a eu des retours, bien. Après, il y a vraiment une question de comment récolter la parole des enfants après un spectacle, qui reste pour moi assez problème, pour l'instant non résolu, parce qu'en fait, dans les scolaires, alors, peut-être vous voyez, les gamins viennent, il y a le spectacle, après c'est fini, enfin souvent ils nous demandent de faire des bords plateaux, alors il y a 150 gamins, puis tout le monde pose des questions, puis en fait c'est des questions... instinctive sur ce qu'ils ont vu, en fait. Donc c'est comment ça se fait que ça, qui c'est qui fait ça, comment ça c'est possible, et puis mais c'est le mythe du gamin qui va lever la main puis qui va dire moi mon tonton il me touche, ça, j'y crois pas une seconde sur un bord plateau, en fait. Du coup il y a un truc sur comment comment on peut accompagner sur les scolaires après coup, et ça, ben malheureusement, en fait, nous, notre boulot, il s'arrête. Ouais.
C'est plus votre boulot, quoi.
Ouais, c'est ça. C'était un peu utopique de croire que chaque salle allait organiser un coin après le spectacle, donner
après,
du sirop aux enfants, qu'on discute tous ensemble.
Ouais.
Voilà, ça, c'est... J'aurais bien voulu que ça se fasse, mais les gens ne sont pas encore prêts, je crois.
Mais globalement, c'est quand même bien accueilli, ou par les parents, les retours que tu en as, ou quoi, c'est...
Alors, mais globalement, comme tout ce que je fais depuis 15 ans, c'est soit les gens adorent, soit les gens détestent. Donc voilà, ça reste dans la même lignée.
Et au moins, il se passe quelque chose.
Voilà.
C'est pas neutre.
Mais les gamins, ils apprécient, parce que je pense que c'est assez vivant, en fait. Puis je pense qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir ça. Puis dans les sons même qu'on utilise, dans la forme, c'est assez... on n'est pas sur un truc gentillet, quoi. Je pense qu'il y a vraiment des... il y a des réactions assez fortes. On les trimballe un peu où on a envie pendant 45 minutes, quoi.
Donc tu peux nous rappeler dans le spectacle, vous utilisez à la fois l'ombre.
On utilise le théâtre d'ombre, pour toutes les scènes de jeu où les comédiens peuvent pas aller, quoi. Comme les marionnettes, ou voilà. Là, on est allé sur le théâtre d'ombre. Et après, c'est de la musique, donc du chant. Et voilà.
Belle création. Le spectacle, il sera pas pour tout de suite sur l'agglo grenobloise, mais il est à retrouver au festival Momix, dimanche 6 et lundi 7 février à Kingersheim. Je sais pas si je le dis bien. Kingersheim, peut-être.
Bon, c'est super.
Ouais. Pas mal, je suis content, merci. Et au festival Polisson, les mardis 8 et mercredi 9 février à Montbrison, ça n'a pas de problème pour le dire, dans le 42, et le 6 avril à Boulogne-Billancourt. Johanna, tu tournes également avec deux autres spectacles qui s'appellent Marmot, chanson pour enfants à partir de 8 ans, et Deuxième sexe pour les adultes. Ouais. Voilà, ben, plus d'infos à te retrouver sur les réseaux, je pense, j'imagine. Ton site, johanna.fr et les réseaux.
Ouais.
Voilà,
ouais.
Pour toutes les informations, si vous voulez aller suivre et prendre vos gages pour les spectacles à venir.
Ouais, du coup, là, c'était un peu aborder la question sur le volet pro. Après, en tant que maman, en tant que parent, vous, comment dans le quotidien, dans quelle situation, avec quelles intentions vous échangez avec vos enfants sur ces sujets-là? Tu voulais rajouter quelque chose, Johanna?
Je voulais juste rajouter un truc sur ce truc de prévention, en fait. C'est vrai que la volonté de pas avoir un spectacle trop frontal avec un monosujet, c'était aussi ce truc de se dire, mais s'il y a des enfants qui sont pas concernés par cette thématique, mais pas du tout, puis qu'ils soient pas, enfin, je veux dire, qu'on n'impose pas le thème, par exemple, des attouchements à un gamin qui a priori n'a pas besoin, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est, voilà, j'avais envie d'un truc assez large, de manière à ce qu'on n'impose pas quelque chose à un gamin qui n'est pas concerné par ça, et puis qui n'est peut-être pas prêt aussi. Enfin, il y a des enfants on n'aborde pas tous notre corps, notre sexualité au même moment ou de la même manière. On n'a pas tous la même temporalité, et c'est le cas pour tous les apprentissages. Que ce soit la lecture, mais c'est le cas aussi pour les rapports humains et la sexualité et tout ça. Et je pense que c'est ce qu'il disait, effectivement, il ne faut pas avoir peur, mais en même temps, voilà, c'est quand même casse-gueule aussi d'aller. Je pense que vous avez dû aussi flipper avec festival, mais ce n'est pas un festival. Mais...
ouais, la semaine thématique.
Non, mais ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est toujours ce truc. Et puis, si le gamin, ça lui donnait une idée... Enfin, je sais pas. Je trouve ça très, très compliqué. Mais...
Ouais. Après, je pense qu'ils prennent aussi ce qu'ils ont à prendre. Moi, je vois, dans la bibliothèque thématique qu'on avait, on a un album qui s'appelle « Petit Doux n'a pas peur », qui est un album qui raconte l'histoire d'un petit ours qui joue avec un gros loup, qui a un gros museau pointu, qui lui met partout et que ça lui fait mal. Donc, en tant qu'adulte, nous, on a énormément de mal à lire ce bouquin, qui est clairement très rattaché, qui est hyper frontal. Ouais. Et en réalité, les enfants ont pris à leur mesure, avec leur histoire, ce qu'il y avait à prendre. Et du coup, on s'est aperçu que c'était nous, en tant qu'adultes, qui nous mettions nos propres limites, mais que les enfants recevaient très bien cette histoire.
Effectivement. C'est ce qui se passe sur le spectacle. C'est que les parents vont avoir vraiment la lecture sortir d'ailleurs en disant « Oula !» Et les gamins, pas du tout. Enfin, ouais.
Et après, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire le manque de retour, en fait, par rapport au spectacle, moi, ce qui m'a plu dans la semaine qu'on a faite l'année dernière avec l'intervention du planning familial et cette année avec l'intervention des travailleuses sociales et des infirmières de la santé scolaire de Grenoble, c'est ce maillage. C'est-à-dire de se dire que, en fait, il ne faut pas être isolé par rapport à l'enfant quand il y a des problématiques comme ça. Il faut qu'il y ait vraiment un maillage qui se fasse entre des gens comme toi, voilà, qui font de la prévention ou sous forme de d'art, d'autres qui vont être dans l'institution, école, c'est mon rôle, d'autres qui vont être dans la santé, d'autres dans la communication, comme tu le fais toi. Et pour moi, la réussite de l'accompagnement de l'enfant, elle est là-dedans, justement, pour revenir à ce que j'ai dit qui m'avait manqué peut-être moi durant ma propre enfance, c'est d'avoir un maillage autour de moi où l'enfant puisse trouver des réponses selon avec qui il se sent le plus à l'aise et que nous on reste pas seul, isolé par rapport aux questions de l'enfant.
Mmh. Oui, puis du coup, la place aussi des parents quand ils peuvent en prendre une. Donc, je vais du coup reposer cette question là. Comment vous évoquez ça avec vos enfants, puis avec quelle intention aussi? Selon leur âge, selon leur sexe. Dans quelle situation vous échangez avec eux par rapport à ça? Et comment?
Alors moi, je pense que dans l'intention de protéger les enfants, et puis aussi de les conduire vers une vie de futurs adultes épanouis avec leur corps et leur sexualité. L'idée, c'est de les informer sans leur faire peur. Donc ça rejoint l'éducation, ça rejoint tout ce qui est artistique. On va les faire réagir, mais sans leur faire peur non plus. Nous, on parle beaucoup du corps à la maison, alors je suis peut-être un petit peu quand même biaisée par mon univers professionnel. Et pour, j'en profite quand même pour dire, pour réagir autour de faire violence à un enfant en lui amenant trop tôt quelque chose, c'est effectivement un vrai problème. C'est pour ça aussi que beaucoup de parents n'osent pas aller sur ces questions de sexualité, parce qu'à la fois, on les voit partout, et c'est quand même toujours aussi compliqué d'y aller. Donner une information adaptée à un enfant, c'est juste. Lui donner des choses trop tôt, c'est lui faire violence aussi. Je pense qu'en observant nos enfants, en observant leur maturation de développement, il y a des enfants qui sont plus curieux que d'autres, ils n'ont pas tous le même tempérament. Il y a des enfants qui explorent beaucoup avec leur corps, d'autres moins. Je pense qu'il faut beaucoup les observer et répondre à la juste mesure. Moi, je sais que je réagis beaucoup à ce qu'on peut voir dans la rue, à la télé, sur une pub. Je vois si ça impacte, si ça impacte pas. Je laisse traîner des livres adaptés. J'observe beaucoup et en tout cas, c'est un sujet qui est très libre. Donc ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Et puis je reformule aussi quand il y a des propos qui reviennent de l'école. Mon fils est rentré au CP et c'est vrai que l'école élémentaire, il y a des phrases qui arrivent qui sont un peu surprenantes. On voit aussi le décalage des générations. Et je lui fais reformuler qu'est-ce que ça veut dire pour toi, qu'est-ce que c'est. On voit aussi que derrière les mots, ils n'y mettent pas forcément grand-chose. Donc leur expliquer aussi ce que c'est hyper important. Donner du sens en fait à tout ça, ça dans le souci d'informer pour les protéger, les armer, laisser la porte ouverte à la discussion toujours. Plus un enfant peut parler tôt de son corps et de tout ce qu'il vit au travers, plus il reviendra quand il en aura besoin aussi. Et pour rebondir sur ce maillage, qui c'est qui en parle? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les soignants? Est-ce que c'est les artistes? Je crois que dans l'univers des violences, on travaille en réseau, on travaille en maillage, on reste jamais tout seul. Et la phrase clé que je répète à peu près tous les jours et qui fait beaucoup rire mes amis, c'est que la violence, ça isole et que la façon d'en sortir et de la prévenir, c'est de s'entourer. Donc je crois qu'on est tous très complémentaires. Et quand les enfants, ils voient qu'ils ont vu un spectacle où on aura évoqué quelque chose, à l'école, on peut mettre des mots, à la maison aussi, alors ça sortira quelque part. Quand ça doit sortir, ça sort effectivement pas tout de suite, même chez les adultes. Donc souvent, on plante des graines et puis ça sortira au bout d'un moment quand la sécurité, elle sera là. Et l'important, c'est de se dire que tout ce qu'on a pu poser avant, c'est important, parce que s'il y a besoin, un jour, ça sortira.
D'accord. Laure, Johanna, sur cette question-là de comment, en tant que parent, on évoque la vie sexuelle affective avec les enfants, avec quelle intention? Vous avez envie de réagir?
Moi, j'attends qu'ils posent des questions. Enfin, non, mais c'est vrai, à partir du moment où il y a des questions, là, je vais essayer de répondre et... Et puis, en fonction des questions qu'ils aient cherché eux-mêmes, les réponses. Le truc du jeu aussi, on en parlait, le côté action-vérité, ça paraît bateau, mais en fait, ça marche bien. C'est compliqué de répondre à cette question, je trouve, parce que pour l'instant, ils sont encore tout petits, enfin, ils ont encore 12 ans, donc on essaye des choses... Entre autres, moi, je leur fais part aussi de ce que moi, j'ai vécu. Donc, ils sont au courant de tout ça. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est des sujets de discussion. Donc, ouais, c'est la parole, mais... C'est vraiment ce truc du moment. À quel moment, donc, ça va être vraiment... Attendre qu'ils posent la question. Donc, là, effectivement, le grand collège et tout, là, c'est parti, hein, on y est. Mais les deux petits, c'est encore... C'est hyper tôt, quoi. Après, autour du jeu, et puis en fonction des... Ouais, on peut évidemment orienter avec les livres, les trucs comme ça, mais je vais être extrêmement pessimiste. Mais il y a un truc où je sais pas si ça suffit, enfin, dans le fond. Hein, c'est un truc... On fait de notre mieux, tous. Je trouve plus facile, du coup, professionnellement, d'aborder ce sujet-là qu'au niveau familial. On saura que dans 20 ans ou dans 30 ans quand, si ce qu'on a fait avec nos gamins a fonctionné ou pas du tout.
Oui.
C'est un truc que je trouve assez dur, d'ailleurs. C'est qu'en fait,
Oui, on discute, oui, on est ouvert, oui. Voilà, répondre à toutes leurs questions. Effectivement, il y a des trucs là. C'est vrai que, oui, il y a des questions qui viennent de leur part. Est-ce que c'est vrai que les filles mettent les zizi dans la bouche et tout? Donc, oui, on va répondre comme on peut à tout ça. Mais en ce qui concerne vraiment la problématique de l'inceste, je ne sais pas si ça suffit.
Oui, moi je suis assez d'accord sur le fait de ne pas anticiper leurs besoins, parce que parfois on a tendance à le faire. Voilà. Et par contre, laisser un espace de parole, mais c'est valable sur ce sujet-là et sur plein d'autres. Hein. À partir du moment où ils se sentent en confiance en famille, sentir qu'en fait il n'y a pas de tabou, mais effectivement, c'est intéressant de les laisser venir sur ces questions-là, mais de s'assurer qu'ils soient suffisamment en confiance avec nous pour pouvoir effectivement nous se confier. Voilà. Après. Moi, je vois ma plus grande fille, elle a 15 ans, ma seconde a 13 ans. Comme tu disais en tout début d'émission, je trouve que ça avance quand même dans le bon sens. Je veux dire, aujourd'hui, tu parlais toi aussi de sex education. Enfin, je veux dire, c'est quand même des choses. Aujourd'hui, il y a une parole libérée que nous, on n'a pas connue. Voilà. Par rapport à plein de problématiques. Et ça, c'est positif. Voilà. Parce que, autant moi, j'ai aussi laissé traîner des bouquins avec mes enfants plus petits. J'ai aussi soit provoqué des conversations, soit attendu, effectivement, qu'ils posent les questions. Mais aujourd'hui, clairement, sur mes enfants plus grands, elles savent que je suis là. Mais elles vont aller chercher l'info, elles vont la trouver. Et sur certains trucs, même, elles sont plus dégourdies que moi. Quoi. Voilà. Ça bouge vraiment sur la question des genres, sur la question des différentes façons d'aimer, sur les orientations sexuelles, sur le fait de revendiquer, de parler, de s'ouvrir, sur la tolérance, sur l'inclusion. C'est quand même des problématiques qui sont aujourd'hui ultra présentes chez les ados et dont ils parlent, je trouve, relativement avec facilité. En tout cas, c'est le cas chez moi. Je sais que c'est pas le cas de partout, mais j'ai l'impression que quand même, on avance.
Mmh. Voilà, le truc de me dire que si moi, j'étais dans la confidence avec eux, puis dans l'intime, puis que... Enfin, moi et mon mari, si nous, on était dans un truc de discussion libérée, ça allait aussi amener ce truc-là qu'après, eux vont venir aussi sur ces terrains-là. C'est valable dans les amitiés aussi, et dans tous les rapports. C'est vrai que moi, je vais aller très vite dans des trucs, dans des discussions... aller questionner les gérants et poser des questions et du coup être dans un truc hyper intime. Et c'est vrai que je pense que ça peut être un... Je pars hyper bien dans mes débuts et après je m'écrase dans mes fins de phrase.
Il y avait un mot important, l'intimité. C'est sûr que des enfants à qui on a déjà parlé d'intimité, c'est beaucoup plus facile pour eux de savoir ce que... Enfin, quand on sait ce que c'est que l'intimité, on peut alors en faire quelque chose, quoi. Donc l'intimité, mon corps, ce qui est à moi, ce qui m'appartient, le corps de l'autre. Et mieux j'appréhende mon corps en tant qu'enfant, mieux je mets ma limite. On m'a dit à l'école que le consentement, etc. Ok, ben ça c'est à moi, j'en suis responsable. Je pense que ça c'est un truc intéressant pour nous les adultes, c'est de rendre nos enfants responsables de leur corps. Il leur appartient, il est à eux. Et du coup, c'est pareil pour l'autre, le corps de l'autre, ses limites, son espace à lui. Et quand on commence petit à voir la vie comme ça, les questions, elles viennent quand elles ont à venir aussi. Si c'est des sujets qui n'ont jamais été posés, parce que je crois qu'avant de parler de sexualité, on parle du corps, enfin des émotions. C'est quoi la colère dans le corps, ça fait quoi? La tristesse, ça fait quoi? Plus on peut mettre des mots, plus on peut avancer sereinement pour un enfant. Lionel Beaucheux disait tout à l'heure dans son extrait que souvent on aborde la sexualité à la puberté pour attention grossesse, attention MST. Et quelque part, c'est déjà bien. C'est dommage de limiter la vie sexuelle à ça. Je pense qu'un enfant à qui on parle déjà de qu'est-ce qui lui fait plaisir et qu'est-ce qui lui fait pas plaisir, sans aller penser à des choses sexuelles, on est déjà dans un début de santé sexuelle. Parce que la santé sexuelle, c'est tout un concept qui est pas très très vieux non plus, hein, c'est les années 70. Mais ça, c'est au-delà, c'est pas que les MST, c'est pas que la violence sexuelle. La sexualité, c'est plein d'autres choses. Et on est d'accord que parler de sexualité avec un enfant, c'est pas aller lui parler de rapport sexuel. Forcément, c'est trop tôt. Mais par contre, il y a plein d'autres choses à lui raconter sur la gestion de son corps, les explorations, ce qui lui fait peur, qu'est-ce que tout ça. Et effectivement, dans les familles, on parle avec les enfants, on les regarde jouer avec son corps. Ça commence là. Il y a des enfants qui ont pas forcément le droit de jouer avec leur corps en tombant, en roulant, en sautant. ça commence là, la peur. On peut voir chez des ados qui ont des conduites à risque, qui se mettent en danger, qu'en fait, ils n'ont pas forcément le droit d'explorer avec leur corps, d'aller jouer librement. Il y a une profession qui est super intéressante pour parler de toutes ces questions, c'est les psychomotriciens. Et vous avez l'occasion de parler avec des psychomotriciens. Ils sont passionnants parce qu'ils peuvent vraiment nous aider dans ces questions-là quand on galère avec son enfant et qu'il faut s'entourer parce qu'évidemment, ce n'est pas facile. C'est des professionnels qui peuvent beaucoup, beaucoup apporter, par exemple.
Très bien. On va devoir clôturer cette première partie.
Tout à fait.
Nous, du côté de Parents Live, on vous mettra donc la bibliographie que Raphaël a préparée. Vous pouvez aussi vous rapprocher des bibliothèques qui sont en général bien pourvues de ce côté-là. Et nous, on vous recommande tout particulièrement la collection « Et si on en parlait » d'Andrea Bescon, qui est connue pour son spectacle « Les chatouilles », qu'elle a créé en 2014, qui a été adapté au cinéma en 2018, où elle y parle de son parcours d'enfant puis d'adulte traumatisé par le viol, en gros du déni à la résilience. Et puis ces petits livres, ils visent à aider les enfants à parler de tout sans tabou. Il y a 3 tranches d'âge différentes, 3, 6, 7, 10, 11 et plus. Et puis, cette série, elle est aussi déclinée en podcast, qui est disponible sur les plateformes d'écoute.
Et ils abordent aussi écran, harcèlement, tout ça.
Voilà, c'est vraiment plus ouvert que simplement sur la sexualité et l'affectivité. On vous mettra aussi le lien du Padlet du spectacle La beauté des sexes, qui regorge de ressources, d'ouvrages, de vidéos, de podcasts pour tous les âges. Et puis, côté parents, n'hésitez pas, Raphaël le redisait, à vous rapprocher de la protection maternelle et infantile, des professionnels de santé, si vous n'arrivez pas à échanger avec votre enfant. L'essentiel, c'est de vous assurer que ce dernier accède à des adultes et des professionnels compétents en la matière et qui puissent parler de tout ça. Voilà. On se retrouve tout à l'heure, très vite, après ce morceau.
Miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension, saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal, quelque part le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers pour le renard. vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de boss flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts, entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes, corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien avant, jamais, nombreux se radicalisent. En manque d'empire, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où. Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement de taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
News FM.
News FM. News FM.
On est de retour dans ce Parents Live numéro 19 consacré à l'éducation sexuelle et la prévention aux violences sexuelles, Flo.
Ouais, j'espère qu'on va pas tout de suite se cracher comme nous a dit Orelsan dans la fin de son morceau quand même. Même si on va aller un peu dans le dur quand même pour cette partie-là qui aborde donc les violences sexuelles faites aux enfants, comment mieux les repérer, comment les signaler, comment in fine accompagner et surtout protéger les enfants. Je me suis appuyée sur les travaux du docteur Muriel Salmona qui travaille depuis de nombreuses années à visibiliser les violences qui sont faites aux enfants. Et en fait, sur son site Mémoire traumatique et victimologie, elle a une petite formation interactive qui fait 30 minutes. On vous mettra le lien, qui est hyper clair et qui fait vraiment une mise à jour qui est nécessaire. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'est dans un podcast qui s'appelle « Ou peut-être une nuit », qui a été réalisé par Charlotte Pudlowski et qui est produit par Lui Média. Et dans ce documentaire très fouillé, ça, on aborde frontalement la question de l'inceste, le silence des victimes et des témoins qui entourent cette réalité, et puis l'impunité dont jouissent les auteurs. Donc dans ce podcast, on dénonce le système juridique et sociétal qui autorise cela. Et elle dit quelque chose qui est d'important et que moi je ne m'étais jamais représenté les choses comme ça. Elle dit qu'il faut arrêter de parler de pédophilie, il faut parler de pédocriminalité parce que la plupart du temps, les actes pédocriminels sont des viols de circonstances, d'aubaines, et que par ailleurs, les personnes n'ont pas forcément une appétence particulière pour les enfants, mais ont aussi une sexualité avec d'autres adultes et en fait l'enfant est disponible, plus faible, et c'est pour ça que ça se passe. Donc ça, c'était une première chose moi, qui m'avait marquée dans ce podcast. Et puis, dans le même temps, il y a eu le livre de Vanessa Springora, Le consentement, qui est sorti, La Familia Grande de Camille Kouchner, qui donnait vraiment à voir l'actualité des propos. Bref, une grosse tarte, mais nécessaire pour ouvrir les yeux sur l'indicible. Ce que dit surtout Muriel Salmona, c'est que les violences sexuelles faites aux enfants, elles sont fortement sous-estimées et encore trop souvent tolérées. On revient sur la question de quel système fait en sorte que ce soit trop souvent non jugé, par exemple. On va écouter Lionel Beauchaud sur cette question-là.
Lorsqu'un enfant fait part et raconte qu'il a été victime de violences, et de violences sexuelles en particulier, dans la très grande majorité des cas, et des études ont été faites là-dessus, sur ce qu'on appelle les allégations de violences subies, dans la très très grande majorité, l'enfant dit quelque chose qui est vrai. Il peut parfois se tromper sur l'auteur, parce que l'événement a été tellement violent qu'elle a pu brouiller ses repères, ce qu'on appelle le traumatisme, le trauma, mais effectivement dans la très grande majorité des cas, on sait dans plus de 95% des cas, l'enfant dit quelque chose de vrai. Voilà, donc si déjà on a ce repère-là, si déjà on sait que statistiquement, l'enfant ne peut pas inventer, dans la très grande majorité des cas, une violence subie, eh bien effectivement nous allons l'entendre, nous allons créditer sa parole, ce qui permet malheureusement la répétition des violences sexuelles de génération en génération, c'est le secret et le non-dit. Donc partons du principe que lorsque l'enfant dit quelque chose, et même s'il le dit mal, ou il le dit à moitié, effectivement, il nous dit quelque chose qui est certainement vrai. Alors pas forcément dans une vérité judiciaire, hein, une vérité qui serait une vérité de gendarmerie ou de police, mais il dirait en tout cas d'une violence qu'il a subie. Charge après aux services spécialisés, hein, gendarmerie et police, de faire un travail d'enquête. Mais en tout cas, l'enfant nous dit qu'il y a quelque chose de grave et de violent qui lui est arrivé.
Oui, et puis il y a des chiffres, Flo, qui ont été, qui sont là et qui sont quand même sans appel, comme tu peux me le dire. 10 à 20% des enfants sont victimes de violences sexuelles, donc ça représente 3 enfants par classe à peu près. Une fille sur 5 et un garçon sur 13 est touchée. Être une fille, c'est le premier facteur de risque. Vient ensuite la vulnérabilité des enfants, que ce soit un handicap par exemple, migrant, les enfants vivant en institution également. 81% des violences sexuelles débutent avant les 18 ans des victimes, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Dans 9 cas sur 10, les agresseurs sont des hommes et 25% ont moins de 18 ans. Et ensuite, 94% des agresseurs sont des proches et dans 50% des membres de la famille. On le sait souvent, le danger ne viendrait donc pas forcément de l'extérieur ou de l'étranger, comme on pourrait le penser. Mais voilà, l'écrasante majorité, 94%, c'est la majorité de l'entourage proche de l'enfant et de sa famille. On imagine bien donc les conséquences sur, sur la santé mentale, physique et tout ce qui s'ensuit, la socialisation. Tout ça, c'est considérable comme impact, comme conséquence.
Donc voilà, on a bien plombé l'ambiance.
Ouais, mais...
mais il faut le dire, en fait, moi, chiffres. C'était indispensable qu'on puisse en parler. Donc tu le disais, il y a des conséquences sur la santé mentale. La mémoire traumatique, elle entraîne des troubles psychosomatiques, comme des conduites à risque, des addictions, des phobies, l'hypervigilance, des risques suicidaires, des troubles du sommeil et de la mémoire. On sait que ça s'est aggravé si les violences ont été subies quand l'enfant avait moins de 10 ans. S'il subit un viol et non pas une agression sexuelle, si c'est de l'inceste, donc quand c'est par un membre de la famille, si c'est répété et c'est sur la durée. Suivant le genre, en fait, pour les filles, c'est le risque de subir de nouveau des violences sexuelles qui est un réel risque. Et pour les enfants, pour les garçons, ce serait de les reproduire. Donc pour Muriel Samona, il faut vraiment lutter contre l'impunité, car en fait, il y a seulement 10% des plaintes pour viol sur enfants qui sont jugées. Donc ça représente vraiment une infime partie. On le disait aussi, de la difficulté à parler et le temps que ça peut prendre. Elle dit que les enfants, ils parlent au bout de 10 ans, en moyenne, et que pour les 3/4 d'entre eux, ça change rien. Elle nous dit aussi, donc ça veut dire que c'est pas jugé, et elle nous dit aussi l'importance d'agir vite quand il y a des allégations ou des révélations d'un enfant, et elle insiste bien sûr sur le fait qu'un enfant n'est jamais, jamais coupable. On va écouter Lionel de Beauchaud de nouveau sur cette question-là.
Quand on est victime de violences à caractère sexuel et qu'on est un enfant, on ne sait pas ce qui nous est tombé dessus. On n'a pas les mots pour parler de cette sexualité génitale adulte parce que l'enfant n'a ni le corps, ni la tête, ni le psychisme pour dire ce qui lui est arrivé. Donc pendant très longtemps, quand on a fait de la prévention, on cherchait à ce que l'enfant puisse dire les choses. Mais c'est pas possible. L'enfant, il ne pourra dire les choses qu'à sa façon, qu'en fonction de son âge, avec les mots qu'il a à l'intérieur de lui, avec le corps qu'il a. Hein, la sexualité adulte, il ne sait pas ce que c'est. C'est pas à l'enfant de mieux nous le dire, c'est à nous adultes de mieux entendre ce que l'enfant dit avec ses mots. C'est ça le travail, effectivement, de prévention et de trouver, du coup, éventuellement, les personnes relais après vers lesquelles nous pourrons orienter cet enfant. Mais l'enfant, lui, partons du principe qu'il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire clairement. Mais il ne pourra pas le faire mieux, lui, cet enfant.
Donc ça, c'est la question. Voilà, la responsabilité, elle est du côté des adultes de savoir repérer et entendre à un moment donné et de repérer les situations qui interpellent. Donc Muriel Samona, elle dit aussi qu'il faut faire un dépistage qu'elle dit, elle, systématique et universel, avec bienveillance et sans a priori. Elle dit en fait qu'il ne faut pas attendre forcément que les enfants parlent, mais qu'il faut les questionner régulièrement et que ce soit un sujet qu'on aborde dans la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a gêné? Est-ce qu'on t'a demandé de garder un secret? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'a fait mal? Est-ce que t'as eu peur? Mais voilà, que ces questions-là, ce soit quelque chose dans le quotidien avec les enfants, que les parents puissent s'autoriser à poser, justement pour si jamais il y a quelque chose qui sort, que l'enfant puisse en parler. Voilà.
Justement, en tant que parent, comment on aborde ça ? Est-ce que c'est des trucs qu'on dit ou qu'on attend peut-être un certain âge, ou est-ce que très tôt on essaye de prendre la température ? Je ne sais pas par quel moyen, mais comment on peut aborder ça ? Est-ce qu'on peut prendre ça en compte dans votre quotidien ou...
La question, c'était aussi de se dire comment on prend en compte ce risque-là pour les enfants dans son quotidien. Voilà, quand un enfant va dormir ailleurs, chez des copains, quand il part en colonie, dans le cadre de l'inceste, les violences sont faites au niveau intrafamilial. Mais voilà, comment en tant que parent, on arrive à trouver un équilibre en fait entre le désir de protéger et puis aussi la responsabilité d'émanciper. C'est Ovidie qui le dit dans son podcast juste avant, où justement elle fait un parallèle entre ses 14 ans à elle et les 14 ans de sa fille qui vient de les avoir. Et elle dit, voilà, en tant que féministe, moi j'ai juste envie de dire à ma fille, habille-toi comme tu veux, la rue est à toi, prends la parole. En tant que maman, c'est tout l'inverse, reste à la maison et surtout, te mets pas en danger, quoi. Donc voilà, comment on aborde ces questions-là en tant que maman, en tant que parent ?
Eh ben, c'est pas facile. Je pense que déjà, quelque chose d'important, c'est de pas être soi-même dans le déni de ce qui peut exister. Juste pour préciser, la violence sexuelle, ce sont les violences sexuelles. C'est la diffusion d'images pornographiques. Un enfant qui va entendre, qui va voir ou entendre des choses inadaptées pour lui, c'est déjà de la violence sexuelle. C'est important pour moi de le préciser parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens se sentent pas forcément concernés parce que derrière violence sexuelle, ils voient les crimes, les viols, et que tout le reste, du coup, ça ne les concerne pas. Je dis ça parce que pour en parler beaucoup et tous les jours au travail, c'est tellement désagréable, tellement pénible, et on n'a pas envie que ça existe. On a tendance à être tous dans le déni. Et là, quelque part, je pense que pour être plus à l'aise pour l'évoquer à nos enfants, il faut ni être dans le déni, ni être dans la panique. C'est ce fameux équilibre qui est toujours en mouvement. Donc je pense que la première des choses, c'est de soi-même ne pas être dans le déni, de savoir que les choses existent. Là encore, il ne s'agit pas d'aller flipper son enfant, le terroriser. Mais je pense que si on l'informe est-ce qu'il y a des choses qui t'ont mis mal à l'aise ? Est-ce que toi, moi, quand je pose la question à mes petits patients, et du coup, j'ai tendance à transposer quand j'en parle à la maison, c'est facile. Je vais demander, est-ce que tu as déjà eu très peur ? Est-ce qu'il y a un truc que tu n'aimes pas trop y aller ? Est-ce que toi, ça t'embête d'aller dans le vestiaire ? Voilà, je vais chercher des choses comme ça sur eux, qu'est-ce que ça leur fait ? Parce que entre ce qu'ils ressentent et ce que ça veut dire et ce qui se produit vraiment, il y a plein de décalages qui peuvent se faire. Donc peut-être les questionner comme ça. Est-ce que tu aimes bien ? Pourquoi tu n'aimes pas ? Qu'est-ce que ça te fait dans toi ? Je pense que c'est déjà un outil qui fonctionne bien à la maison. Et qui est à la portée de tous. Et puis, alors, j'en profite, par rapport au trauma et au questionnement systématique, même chez les adultes, moi, je questionne systématiquement mes patients et mes patientes sur les violences. Alors, j'ai fait des études pour ça, où on nous a appris à poser la question, parce que les soignants ne sont pas formés aux violences. Donc, c'est quand même une démarche, c'est pas facile. Puis après, une fois qu'on pose la question, il faut quand même savoir recevoir la réponse. Et c'est encore un autre sujet. Mais donc, quand je suis sortie de mes études, j'ai posé la question systématiquement. Et en fait, il y a des fois, c'était oui. Il y a des fois, c'était non. Il y a des fois, c'était non, mais c'était pas si clair. Bon. Et j'ai changé ma question et comment je la pose. Et je la pose jamais de la même façon. Mais je fais pareil avec les enfants. C'est-à-dire que je les questionne systématiquement avec ce vocabulaire-là. Est-ce que tu as déjà eu très peur ? Est-ce que tu as déjà eu très mal ? Est-ce que tu as déjà des choses dont tu ne te rappelles pas ? Et ce qui est important de savoir aussi, donc Muriel Samoa qui est psychiatre, elle en parle très bien, c'est que une personne qui a vécu un traumatisme, elle ne va pas le raconter spontanément, même adulte. Et c'est en posant la question, en posant les questions, en allant chercher qu'on va avoir une réponse. Donc effectivement, c'est important. Mais simplement.
Oui, nous, simplement, à l'école, on n'est pas du tout dans cette posture-là. On est dans une posture où on va recevoir les informations et où, justement, nous, on n'est pas du tout censé questionner. Nous, on est censé alerter, faire appel au maillage, justement, qui existe, parce que, comme tu l'as dit, Raphaël, tu as été formé à ça. Tous les soignants, d'ailleurs, ne le sont pas forcément. Et nous, en aucun cas, on est formé à ça. Et on ne va pas, en fait, surajouter aux difficultés en venant imposer à l'enfant un questionnaire qui ne sera pas adapté. Donc en fait, nous, à ce moment-là, il faut qu'on soit dans la vigilance, dans l'observation, et ensuite qu'on passe le relais en fait aux gens qui sont, euh,
qui sont plus formés que nous et dont c'est le métier. Voilà. Après, à l'école, on fait aussi des signalements en cas de doute. C'est là où on intervient, mais voilà quelle est notre posture. En tous les cas, on va pas à la pêche aux informations. Mais si on a le moindre doute, il y a tout un protocole. On peut aussi, si on sent que l'enfant n'est pas en danger, en parler aux parents. En premier lieu, c'est pas quelque chose qui est évident à faire, mais on sait aussi qu'en général, alors je parle plus de violence que de violence sexuelle, mais souvent quand la parole est posée auprès des parents, ça s'arrête. On a tendance à croire qu'en réalité, ça va entraîner des conséquences négatives pour l'enfant, et c'est souvent le contraire. Néanmoins, il faut qu'il y ait une vigilance après sur le long terme qui soit installée, parce que ça peut s'arrêter un moment et recommencer plus tard.
Johanna, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur ça? Sur comment on prend en compte ce risque-là dans son éducation avec ses enfants et comment on aborde en fait à la maison?
Non, c'était bien ce qu'elle a dit. Ouais, non.
D'accord. On va écouter Lionel Beauchaud sur les situations qui peuvent interpeller justement. À quel moment on peut se dire, bon bah là, il faut peut-être qu'on aille chercher un peu, peut-être qu'on aille creuser un peu.
Ce à quoi on doit être vigilant, et là je pense aux parents et aux professionnels d'ailleurs, c'est les changements importants de comportement d'un enfant. Je pense par exemple à un enfant qui est plutôt un enfant tonique, qui tisse des liens facilement avec les autres enfants, qui d'un seul coup effectivement va aller à l'école, par exemple je pense à l'école maternelle ou à la crèche, et puis d'un seul coup les professionnels constatent que cet enfant d'un seul coup il est replié. Il se cache, il semble avoir peur. Enfin, son comportement exprime un changement important. Donc ça, c'est une première chose. Ceci dit, on peut un jour être différent d'un autre, parce qu'on est triste, parce que... Voilà. Donc, la première chose, c'est un changement de comportement important qui dure et qui s'installe durablement et pour lequel on ne trouve pas d'explication logique.
D'accord. Je pensais pas que ça arrêtait.
D'accord.
D'accord. Non, mais
ne t'entends pas, Flo.
Mais du coup, moi, je veux bien rebondir là-dessus, Florence, parce que tu vois, il parle des professionnels et il parle de l'école notamment, parce que évidemment, on passe énormément de temps avec les élèves. Et nous, là, on est dans la demande d'être formés, c'est-à-dire repérer ces signaux. C'est quelque chose qu'on pourrait nous apprendre à faire. Parce que là, on a le protocole, effectivement, en cas de crise, qu'on connaît tous. Mais on sait qu'il existe des signaux qui sont repérables. Et voilà, nous, là, on fait la semaine Respecte ton corps, etc. Mais une vraie formation sur ces sujets-là, quand on entend les statistiques, et nous, c'est aussi pour ça qu'on avait fait la semaine Respecte ton corps, parce qu'on s'était dit, mais alors, ça veut dire que dans nos classes... on a au moins un ou deux enfants en maternelle qui sont confrontés à ça. Donc c'est là qu'on s'est dit, bah allez, on le fait toutes les années, mais on aimerait être un peu plus outillés sur le sujet, et c'est vrai que pour l'instant, ça viendra sans doute, comme beaucoup de choses, mais ça prend du temps. Et on aimerait pouvoir avoir des formations sur ce sujet-là, avoir des intervenants qui viennent nous apprendre justement à détecter les signaux, à repérer les choses, etc.
Donc ça, c'est des choses que vous voudriez mettre en place?
Bah, dont on aimerait pouvoir bénéficier, voilà, on a de la formation continue en tant qu'enseignant, et
vous
pour
avez
l'instant
déjà des trucs, quoi,
non, non non voilà pour
ah,
l'instant on n'a pas, voilà. Alors après, on peut se mettre en contact, nous, avec à Grenoble on a une santé scolaire municipale. En tout cas, moi, sur le secteur où je suis, c'est des gens super qui sont hyper impliqués et qui peuvent venir à la demande. Mais ce qui serait bien, c'est que l'école, qui est quand même ce lieu d'accueil universel, les enseignants et les personnels qui travaillent dans l'école puissent être un peu plus formés sur comment repérer les signaux chez un enfant qui a subi des violences sexuelles. Des signaux spécifiques.
Non, mais moi, c'est ce truc de...
Approche-toi un peu, s'il te plaît.
Ouais, pardon. Merci. Une fois que les signaux sont vus, etc., hein, une fois que le truc est repéré, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est plus ce truc-là que je trouve où il y a quand même une énorme lacune. Mais avant, à l'époque, elle était dans la loi. Alors, je ne connais pas les changements qu'il y a eu. Et puis, je ne connais pas la loi française hyper bien non plus. Mais en tout cas, il y a 15 ans, on était considéré comme viol, en tout cas en Suisse, que la pénétration vaginale. Le reste n'était pas considéré comme viol. Donc, il y avait quand même bel et bien, à un moment donné, OK, le gamin, on voit les signaux, on repère, on va s'orienter vers le planning ou je ne sais pas quoi. Mais... après, la loi, elle ne suit pas, en fait.
Je crois qu'au niveau de la loi, c'est toute forme de pénétration maintenant.
D'accord. Tant mieux, les choses ont bougé, ouais. Mais après, c'est... moi, j'aimerais bien voir les chiffres de... qu'est-ce que les personnes prennent réellement
comme condamnation.
C'est-à-dire, ouais, c'est quand tu vois le poids que c'est un procès, c'est-à-dire ouais. aller témoigner devant des flics, des machins, revivre le truc, donner les détails, etc. Ouais. Si la personne, elle prend 6 mois avec sursis, c'est au final...
C'est décalé.
Qu'est-ce qui se passe ? Moi, c'est plutôt sur l'après, en fait, où je trouve ça assez... je pense que j'ai encore un peu pas mal de colère là-dessus. Parce que, OK, on avance, OK, on fait péter les... Il y a encore les 10 ans de prescription, par exemple. Ça, c'est un truc que je trouve assez... Enfin, ça fout la haine quand même. C'est
surtout quand on entend le délai dont vous parliez tout à l'heure, où la parole va se libérer.
Ouais.
Voilà, où il parlait de 10 années justement, je crois.
Oui, en moyenne.
Oui, et c'est 10 années après la majorité. Oui, c'est ça.
Ouais.
En fait, la libération du trauma elle arrive souvent tard. Et par rapport à la formation en éducation nationale, déjà dans le domaine de la santé, c'est vraiment le. On est en retard là-dessus. Je pense que sociétalement, c'est tellement des choses qui ne veulent pas être vues que c'est en retard. Moi, le diplôme universitaire que j'ai fait, c'est un engagement de professionnel, c'est de l'argent investi pour aller me faire violence, puisque c'est des études qui vous remuent quand même pas mal. Donc, c'est vraiment un engagement, une volonté, mais ce n'est pas des choses qui étaient de mon temps dans mes études de soignant. Par exemple, au niveau de ma profession, on a un conseil de l'ordre qui a beaucoup travaillé avec l'ADMIPROF. L'ADMIPROF, c'est la mission interministérielle qui lutte contre la traite des humains et les violences faites aux femmes. Ils ont travaillé et maintenant, ça rentre dans le cursus dans les instituts de formation en kiné. C'est des choses qui commencent à se mettre en place. Au niveau des médecins, il y a aussi des choses qui se mettent en place. On commence à vraiment voir apparaître des choses autour de ces questions-là. Mais c'est encore lourdingue et en retard. Donc effectivement, c'est un gros dossier à investir, et notamment au niveau de l'enseignement et de tous les publics qui sont confrontés aux enfants. Je pense aussi à une discussion que j'ai eue récemment avec une avocate qui travaille dans les mœurs, et donc qui est tous les jours avec ses victimes de violences, notamment sexuelles, au tribunal, et qui, des fois, me décrit des signes des victimes qui sont des signes cliniques qui, moi, m'évoquent plein de choses et je me rends compte qu'elle n'a pas non plus les outils. Donc je pense qu'il y a vraiment plus on en parle, plus on va mieux on va former les gens, mieux on va dépister les choses, en parler. Plus on aura aussi là-dessus un discours sans tabou, plus on aura une justice qui peut-être bougera. On a une justice qui ne se bouge pas encore assez fort, ils sont débordés, c'est une catastrophe. Il y a un autre truc que je voulais dire qui est intéressant, c'est qu'il commence aussi, ces auteurs de violence, il y a la justice qui doit faire quelque chose, et il y a aussi le soin, parce qu'on se rend compte que voilà, c'est aussi des gens qui ont dans leur parcours de vie des carences dans leur développement psychomoteur et moteur et psychologique. Et là aussi, on peut avoir des actions dans le soin. Et c'est intéressant aussi de...
Je n'ai pas compris, le soin pour les victimes ou pour l'agresseur ?
Pour l'agresseur aussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à être punis par la loi et qui sont aussi à être... soigner, parce que c'est des gens, il faut aussi qu'ils en fassent quelque chose et les accompagner là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps, mais c'est encore trop long.
Moi, c'est ce que j'avais dit à Lionel Beauchaud dans l'entretien, dans l'intégralité, on peut l'entendre, c'est j'ai dit ok pour protéger les victimes, mais qu'est-ce qu'on fait pour dissuader les auteurs ?
Oui, c'est ça. En fait, il faut agir sur tous les plans. Et par exemple aussi au niveau des victimes, le soin, il est compliqué parce que le traumatisme, il va faire des victimes qui sont éclatées. C'est-à-dire que la prise en charge d'une victime de trauma, de psychotraumatisme, elle est dense, il faut agir sur plusieurs facettes. C'est un grand parcours qui est long, qui est fatigant, qui prend du temps, qui nécessite plusieurs corps de métier. Et ça aussi, plus on va en parler, plus on va lever les tabous autour de ça, plus on va avoir des solutions qui sont... intéressante pour les victimes.
D'accord, on va conclure tranquillement. Moi, je voulais juste vous parler d'une petite vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le Loup, de Maylan Chapiron. Donc, c'est une vidéo très explicite et pédagogique pour expliquer ce qu'est une agression sexuelle et inciter les enfants à en parler. Donc, elle est conseillée à partir de 4 ans, cette vidéo. Après, je vous conseille quand même de la regarder avant. Pour estimer voilà, si vous pensez que votre enfant est capable à partir de 4 ans de la visionner, ou si vous attendez un peu plus tard, ou si vous prenez que des bouts. Mais en tout cas, voilà, elle a le mérite de poser des mots très clairs. Et c'est important aussi de citer pour la question du signalement, le numéro vert est gratuit qui est le 119, donc et qui permet Allo Enfant sans danger, qui permet d'être en lien directement avec un professionnel qui sont censés orienter en fonction de ce qu'on a vu. Est-ce que c'est des révélations qu'a fait l'enfant? Est-ce qu'on pense que l'enfant est en péril imminent? Est-ce qu'on fait une information préoccupante parce qu'on a des inquiétudes mais sans révélation particulière? Donc voilà. Et ensuite, il se met en branle une machine judiciaire ou pas, administrative ou pas, qui aboutit ou pas, et c'est encore dramatique. On rappelle quand même que les adultes, ils ont l'obligation morale et légale de réagir et de protéger les enfants quand ils sont témoins. Donc moi, je retiens vraiment de cet épisode l'importance de ne pas occulter le corps, la sexualité, les émotions, l'affectivité dans l'éducation et dans nos échanges avec nos enfants, de se faire aider si besoin, si on n'y arrive pas. Concernant les violences sexuelles, parler le plus possible en tant que victime ou en tant que témoin, je le rappelle. Écouter aussi, écouter plus et mieux. On parlait de voilà, qu'est-ce qui peut se mettre en place et à quel moment les politiques et les lois bougent aussi. Depuis un an, il y a les politiques publiques et l'évolution du système juridique et des lois se concrétisent avec les recommandations de la CIVIS, donc qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Qui a notamment fait bouger une loi où quand un des parents estime que son enfant subit des violences sexuelles chez l'autre parent quand il y a une séparation, le temps de l'enquête, l'enfant n'est plus obligé d'aller chez l'autre parent. Voilà, donc il y a des petites avancées au niveau de la loi. La CIVIS, elle lance un appel à témoignage avec le hashtag témoigner protégé, qui rappelle donc ce qu'on disait, hein, que le silence entraîne la répétition et protège les auteurs. Donc le silence, celui des victimes, mais aussi celui des témoins. Donc Laure, tu le disais, l'importance donc d'apprendre à écouter, à détecter, à dénoncer. Voilà.
Yes. L'intégralité de l'entretien avec Lionel Beauchot, elle sera disponible en bonus de l'épisode, Flo. Toutes les ressources citées seront à retrouver dans le descriptif du podcast, qui sera en ligne d'ici une dizaine de jours max. Nous, on va vous retrouver le 16 mars pour une émission délocalisée à la Maison des habitants de l'Abbaye, dans le cadre du mois de l'égalité femmes-hommes, Flo. Ce sera bien ça. Et j'ai envie de remercier chaleureusement nos invités du jour. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, merci. Laure. Merci beaucoup, Johanna.
Merci à vous. Merci
à toutes les trois.
Merci. Et à Lionel pour sa contribution aussi à cette 19e émission. Merci à vous pour votre écoute. Bon courage en cette période Covidée. Bon courage demain aussi pour la grève des enseignants.
Merci.
Et n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous, à nous écrire, à nous proposer des sujets. On vous embrasse, si, pour de vrai. Promis. News FM.